غادي وانت غادا. بنتك لاباس عليها؟ كلشي مزيان الحمد لله. كي دايره مع الضياف؟
عادي. شي ليلى 19h24 suite du récit de juillet 1998.
La la la. La pluie tahti qbila, kayna un orage. Ah. Ah, mais t'es angoissée, t'as tbqa ma takolch. Elle est angoissée. Ah. Ah, d'accord. Ou t'as peut-être tfekker ma rasa. Ou t'as tnaes mzyan bada wala la. آه لا بصح شنو هي حكمة؟ هي شنو هي حكمة؟ هي بحال ان سافوار ولا ان دون ان ساجيس. الكاركتير ديال الناس تيكون مخلوق تقول كيما تيتبدلوا الناس. لا بصح بحال كانت عندنا واحد لا سونسيبيليتي. لا زعما باش تعرف ملي تكون في لو ميم اج تشوف لي شوز زعما يدي دي كاركتير ديفيرون. On était très différents, ouais. Aussi, je m'allais qu'il crée la maman, merci. Moi aussi, je t'aime, maman. Tiens, demain, on sera, je vais. Allez, bisous. Excuse-moi, Jérémy.
Non, non, je t'en prie.
C'était ma maman. Tiens, le cendrier.
Merci.
Parce que c'est le ramadan, alors... Elle veut que je l'appelle tous les jours, même si c'est juste deux minutes. C'est le mois de la famille, tu sais.
Et elle est à... Elle est où? Elle est à Bessège?
Ouais, à Bessège, bien sûr. Tu veux du thé?
Non, ça va, je te remercie.
Et où est-ce qu'on en était, nous, déjà?
L'histoire du canapé, des 500 francs, là, non?
Ouais, c'était les... En fait, c'était même avant, même. Avant que ma mère me donne les 500 francs, en fait... Dans mon village, ils projetaient Titanic, c'était là l'été où je suis tombée malade. Et j'étais allée le voir 36 ou 38 fois. J'avais, comment te dire, j'avais ressenti le besoin de voir ce film. Mais vraiment, c'était comme, c'était dans mon ventre, c'était... Mais attends, je t'ai préparé mon passage préféré. Tu l'as vu?
Oui, bien sûr.
Bah, tu te souviens, au début, le film il commence avec l'histoire de cette femme, Kate Winslet vieille. Elle est très vieille, elle raconte son histoire, le bateau, le naufrage, la rencontre qui a changé sa vie. Elle raconte ça pour la première fois. Et je me souviens, à l'époque, c'est une jeune femme enfermée dans son monde. Bah, tu vois, dans les appartements de première classe. Elle n'a pas le droit de parler à table, elle ne peut jamais faire ce qu'elle veut, comme dans une prison. Et Kate Winslet, oh, elle est belle, regarde. Avec ses longs cheveux blonds roux et ce visage d'enfant qu'elle a. Bon, c'est vrai, elle est jeune, mais quand même. Ah bah tiens, c'est là, attends. Pour moi, c'était comme un négrier qui me ramenait enchaîné en Amérique. Et puis du coup, après, elle cherche tout le temps comment s'enfuir. Fuir, c'est chercher une ligne, une direction. C'est très concret. Fuir, c'est pas bien ou mal. Ce sont des actes, c'est ce que l'on fait, voilà. Vivre, fuir, c'est ce que l'on fait. Et puis un peu plus loin, un peu après ça, Kate Winslet, elle dit « À l'extérieur, j'avais l'apparence d'une fille tout à fait comme il faut, mais à l'intérieur, je hurlais. » Voilà, c'est ça. L'intérieur, je hurlais. Ben, c'est là. C'est à ce moment-là que j'avais eu cette sensation bizarre. Comme si le film avait été fait pour moi. Je me souviens d'avoir eu cette sensation. Comme si le réalisateur avait fait le film pour moi. Et je me souviens que je sentais que j'étais comme eux. Non mais... Réellement, je veux dire, pas la sensation d'être comme les personnages, mais la sensation bizarre d'être comme les personnes qui jouent ces personnages. D'être vraiment à leur place et de jouer un rôle. Et d'être comme eux, voilà. 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 Ce jour-là, c'est la dernière fois que je suis allée voir Titanic. C'était la séance du matin, et après le film, je pleurais comme à chaque fois. Je rentrais chez moi. Et alors ma mère m'avait donné ses 500 francs, elle m'avait demandé d'aller payer pour un canapé que mon frère avait acheté. Il l'avait acheté, mais il est handicapé, mon grand frère. Il pouvait pas se déplacer pour aller payer lui-même. Donc, ma mère voulait que j'aille chez Reutor, le magasin de meubles de Bessèges, et que je paye à sa place. Je crois que c'est là que tout a commencé. Ma mère m'avait donné l'argent, elle avait dit « Voilà, je te donne l'argent et tu vas payer. » C'était 500 francs, presque 100 euros. Et elle avait dit « Tiens, tu vas payer. Tu vas aller chez Reutor et tu vas payer. » Au moment où ma mère m'avait donné l'argent, j'avais eu cette sensation... comme d'être légère, une sensation de légèreté, voilà, et d'insouciance un peu aussi. Et au moment précis où elle m'a donné l'argent, quand j'ai eu les 500 francs dans la main, là, j'ai su que je devais partir. Ça te gêne pas si on sort dehors, on marche un peu?
Non, si tu veux,
ouais. Ouais. Ouais, très bien. Je suis sortie de la maison... machinalement, tu vois, avec l'argent de ma mère dans la poche et cette sorte de légèreté en moi. C'était quelque chose en moi qui se levait. Je sentais qu'il y avait en moi quelque chose de plus grand que... la vie, ça pouvait pas être ça, seulement ça, que... il fallait trouver autre chose. Alors j'avais pris ma voiture et j'avais roulé. J'étais légère, je me rendais compte que dans mon état, j'aurais pu créer un accident. Je me souviens, je roulais très vite, un peu dans la campagne, un peu dans la forêt. J'étais sortie du village. En tout cas, je roulais hyper vite, droit devant moi. C'était tout ce qui comptait, rouler tout droit, en avant. Dans ma tête, il y avait « il faut que je parte ». Et puis sans m'en apercevoir, je suis tombée sur la route que je prenais pour aller à la fac. Je me suis retrouvée garée sur le parking de la cité où j'habitais pendant l'année. C'était un temps à ce qu'il y ait des orages... comme un poids sur la poitrine, alors que moi, je me sentais tellement légère. Alors, j'ai eu envie d'aller rendre visite à mon ami Raphaël. Il habitait à côté de la cité U. Je voulais parler avec lui, régler une erreur. Il y avait eu comme une brouille entre nous. Lui, c'était Apollon. J'étais persuadée que les dieux de la mythologie nous habitaient. Que tous, tout le monde, on était habités par ces dieux, par leur force, par leur énergie. Je disais concentration de force. C'est pas de la réincarnation. Disait concentration de force. Que ces forces prennent des noms de Dieu, c'est pas l'important. Ces forces sont autour de nous, en nous, là, tout le temps. On est habité par ça. Mais la plupart des gens essaient de l'oublier pour se rassurer, pour pas avoir peur d'eux-mêmes, tu vois. Moi, j'étais Athéna, c'est comme ça. De là à pied, j'étais allée jusque dans le centre de Montpellier, place de la Comédie. Et c'est là que j'avais eu l'idée de me teindre les cheveux. C'était comme ça dans ma tête. Il y avait « il faut que je me teigne en blond vénitien ». Donc, il devait pas être plus de 15 heures. Je suis allée à la gare et je suis montée dans le premier train devant moi, comme ça, sans regarder où il allait. Je pensais qu'à ça, à prendre un train. Cette phrase toujours dans ma tête « il faut que je parte ». Un voyage qui commençait, quelque chose de neuf. La nouvelle Leïla. J'adore mon quartier, tu sais ça. Y'a personne, c'est drôle. Ils sont où les gens? C'est mon rêve, c'est de faire le toboggan là, mais j'ai jamais osé. En plus, ils ont mis des pics là pour casser le cul des petits voyous. Et il y en a qui slaloment, tu sais, ils essaient d'éviter les petits pics en faisant zigouigoui avec le cul. Tout le monde déteste le métro, et ben moi j'aime bien le métro. Ouais, ça fait partie de ma vie, je suis habituée là. Le bruit des toboggans là. Ben c'est les toboggans quoi. Je te fais rire. Vas-y. Sans deck, y'a personne.
On va où?
On va... je sais pas.
Si, je sais où on va. J'ai décidé.
T'as vu la pub ? 240 euros la montre. Elle est moche. Tu sais, quand on est le bon Dieu, vieux barbu, là, il nous met dans des sacs. Chacun son sac. Et moi, il m'a mise dans le mauvais sac. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, je me suis souvent sentie coupable parce qu'il m'avait mise dans le mauvais sac. Il l'a fait exprès, tu vois. Toi, il t'a mis dans un sac, moi dans un sac. C'est bien pour une raison. Tu sais, à Bessèges, il n'y avait pas beaucoup d'Arabes à l'époque. Moi, à l'école, j'étais la seule. On ne se moquait pas de moi, mais bon, j'étais la petite princesse arabe, tu vois. Et dans la famille, ben, j'étais la seule française. C'est vrai. Moi, j'étais française, j'étais née en France. Mes frères et sœurs, ils étaient algériens. Ils n'étaient pas encore français. Et ça fait des choses, quoi. Pourquoi je te raconte ça ? Il y a quelques années, mes parents, ils ont fait venir un talb à la maison. Le talb, on dit Taleb, ça s'écrit Taleb. Bah, c'est la personne qui est liée aux choses sacrées, qui connaît les textes par cœur, qui fait les rituels, les exorcismes, ce que tu veux, quoi. Et là, j'étais avec lui dans ma chambre, on avait fermé la porte, et puis il était en train de lire. Ça me cassait les couilles, je fermais le livre à chaque fois, il le rouvrait, je fermais, il le rouvrait. À un moment, il en a eu marre, il m'a parlé avec une voix nette, vraie, profonde et douce en même temps. Alors ça m'a calmée, je te jure, ça m'a apaisée à l'intérieur. Je me suis tue et j'ai commencé à l'écouter. Et je regardais, il y avait de l'encens dans une casserole qui brûlait. À un moment, et il a brillé très fort, ça m'a un peu fait mal aux yeux, j'ai fermé les yeux. Et là, en fermant les yeux, il y a une image qui est apparue. C'était un lys blanc qui s'ouvrait tout doucement comme au ralenti. Il y avait les pétales qui tombaient et puis hop, elle s'envolait comme un papillon blanc. Et au moment où ça s'est envolé, j'ai entendu le talb me dire... Avec cette voix qui venait de loin, il me dit « Leïla, je sais que t'as beaucoup souffert. Tu vas souffrir encore un peu. Mais ta place, petit à petit, tu vas la trouver. Je suis arrivée à Paris, à la gare de Lyon. C'était la première fois que je venais à Paris. Je l'avais souvent imaginé, cette première fois. Souvent, je me demandais comment ça serait d'aller à Paris, d'être dans Paris, de vivre à Paris. J'avais rêvé de vivre à Paris.
Mais tu savais que le train, il arrivait à Paris ?
Mais non, je ne le savais pas. Je te dis, je n'avais pas regardé où il allait, ce train. Je suis juste arrivée à Paris, comme ça. Et c'était la première fois. Je suis arrivée à la gare de Lyon, en sortant de la gare. Je ne savais pas où j'allais, je m'étais mise à marcher. Je savais pas dans quelle direction, mais ça n'avait aucune importance, évidemment. C'était Paris. Comme ça, là, regarde. Les grandes rues, les grands arbres, les immeubles jaunes, là, avec cette pierre, on dirait du sable. Si tu la touches, elle va s'effriter, t'as l'impression. Et c'est magnifique, les rues hyper larges. Je marchais, je marchais. J'ai hyper soif. Viens, voilà. Bonsoir. Et pendant que je marchais, il y avait 10 gens qui me parlaient. C'est pas juste qu'ils me parlaient, ils me disaient bonjour et ils me disaient mon prénom. Ils me disaient salut Leïla, ça va, comment ça va? Qu'est-ce que je prends? Non, c'est pas ici. Ils me disaient comment ça va Leïla? Ça a commencé. par un noir qui était devant moi. Il marchait devant moi, il parlait au téléphone, il avait un téléphone. Il parlait. Et puis il me voit, il arrête sa conversation. Moi, je le regarde, je me dis pourquoi il me regarde lui. Et il me dit salut Leïla. Il me fait un signe comme ça, là, avec la main. C'est combien ça, monsieur?
1,20€.
Ok. Tu veux quelque chose?
Non, ça va, je te laisse.
Et puis ça a recommencé après, un autre homme dans la rue, il m'avait fait la même. Un arabe aussi dans un bus qui passait devant moi, il me fait des grands signes, comme s'il me reconnaissait de loin et tout. Et puis aussi un enfant qui était avec sa mère. Il me regarde, il me dit « Salut Leïla !» Ils me reconnaissent. Bon, évidemment, on se connaissait pas, mais d'une certaine manière, ils m'avaient reconnu. Attends, j'ai la monnaie.
Okay, c'est parfait.
Ok, merci. Merci. Bonne soirée.
Bonne soirée aussi.
Ouais. Au revoir.
Ouais, merci.
Je sais pas comment. Je me suis trouvée sur les Champs-Élysées. Je sais pas si j'avais eu l'idée des Champs-Élysées. C'était très simple en tout cas. Il n'y avait que la marche continue, pesée, précise. Et quand je suis arrivée vers les Champs-Élysées, j'ai eu soudain la sensation d'être comme attendue, que quelqu'un m'attendait. Je me disais, là-bas, dans un hôtel, je crois que c'était le Ritz, il y avait les grands acteurs de cinéma qui m'attendaient. Je me disais, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Al Pacino, ils sont tous là, ils m'attendent. Il fait bon. Je n'avais pas cherché cet hôtel, j'y suis simplement allée. Oh, tu sais ce que j'aime bien quand on se promène la nuit à Paris, c'est que parfois les gens ils laissent le rideau ouvert et on les voit à l'intérieur. C'est joli, parfois il y a des ambiances, je me dis, oh, j'aimerais bien habiter là. Ou j'aimerais bien être la femme qui est là. Je m'imagine que c'est ma vie à moi.
T'as vu la bibliothèque qu'ils ont là?
Ouais, c'est joli.
C'est beau,
hein? Ouais.
Ouais.
C'est beau la décoration. T'as déjà été au Ritz?
Ah non.
C'est magnifique. Hein, j'aimerais bien t'emmener un jour, mais c'est très cher. 70€ pour prendre un thé là-bas. Et donc... Tu vois, je me disais, il y avait tous les acteurs de cinéma qui m'attendaient. J'en étais persuadée. Et j'avais pas cherché l'hôtel. J'y suis simplement allée. Ils s'étaient présentés sur mon chemin. Et ce dont je me souviens, c'est qu'un homme avait voulu m'empêcher d'entrer dans l'hôtel. Je me souviens qu'il était complètement défoncé, à l'ouest. Quelque chose dans son regard qui semblait à côté de la plaque. Comme quelqu'un qui va pas très bien, tu vois. Quelqu'un qui s'est pas trouvé. Mais j'étais entrée quand même dans le Ritz et j'avais dit que j'étais la fille de Mohamed El Fayed, le propriétaire du Ritz, le père de Dodi El Fayed qui était l'amant de Lady Di. Je me souviens, elle avait dîné là-bas le soir où elle est morte, la pauvre.
Ouais.
Et j'avais demandé une chambre, la chambre du milieu, à l'étage du milieu. Il m'avait donné cette chambre. Et j'avais demandé un taxi pour aller chez Jean-Paul Gaultier et ils avaient appelé le taxi.
T'étais allée chez Jean-Paul Gaultier?
Mais non, c'est ça l'histoire. C'est qu'à ce moment-là, je me suis embrouillée avec le portier. C'était un blond, violent, drogué. En tout cas, il n'était pas dans son état normal. Il m'avait dit que j'avais rien à faire là, qu'il fallait que je parte. Il avait même appelé la police. Je m'étais enfuie. T'as vu la nana avec son téléphone coincé sous le foulard?
Ouais.
Comme ça, elle n'a pas besoin de le... C'est le kit-main.
Kit-main libre.
Halal. J'avais repris la marche. Je marchais sur les Champs-Élysées. Je voyais au bout là-bas l'Arc de Triomphe. De lumière, ça brillait dans mes yeux. Je me sentais attirée. Et pendant que je marchais, j'ai encore croisé un homme qui marchait. Un peu comme celui-là, tu vois, avec un costard,
ouais.
Chemise blanche, qui rentre du boulot fatigué, tu vois. Il va mourir, lui. Et tu vois, le mec, il me raconte sa vie, toute sa vie ratée, sa vie qui passe à côté de lui. Il me dit, je suis informaticien, mais je sais pas si c'est fait pour moi. Ça m'avait fait de la peine. Je lui avais dit, mais si ça te plaît pas, il faut changer. Et il y avait une autre fille aussi qui s'était arrêtée. C'est dans une voiture. Elle m'avait demandé son chemin, quoi. Je voulais parler avec elle, je prenais ça au sérieux. Et avec son mec qui était là, je voulais qu'ils me prennent dans leur voiture. Mais alors, la fille, elle m'avait dit, mais on peut pas faire l'amour à trois, tu sais. Bon. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Et finalement, je suis arrivée devant l'Arc de Triomphe. Et là, j'ai fait trois tours. Bonsoir. J'ai fait trois tours de l'Arc de Triomphe. Ça me donnait de la force. Je me sentais envahie comme d'une puissance. Comme si je me réveillais. Et sans le savoir, en fait, j'étais déjà réveillée.
Je regarde un peu. On dirait que les CRS ils dansent avec les manifestants. C'est marrant. T'en penses quoi de tout ça? Oh là là, on va se prendre du verre là. Ouais! Vive la liberté! Mais tu sais que c'est ça à Paris, quoi. Quand j'ai débarqué, je me souviens, je sais plus pourquoi il y avait à l'époque. Ces premières années où j'habitais à Paris, je traînais avec un pote, un black, je l'aimais beaucoup. Et on venait là, il y avait des manifs, je savais même plus pourquoi, mais je criais avec les gens. Et ça, on pouvait pas le faire à Bessèges. Ah, ça pue! Et tu vois, c'était comme un vent de liberté qui soufflait. Oh, ça pique les yeux. Et tu sens à l'intérieur de toi, ça vibre. Et t'as envie de marcher, d'arpenter. Et ce jour-là, moi, après, j'arpentais Paris comme ça. Je me sentais libre. Non, mais je finis là, on ne peut pas sortir de la place.
Ok, vraiment. On se casse. Non? C'est la merde, parce qu'on peut même pas se mettre à la terrasse là.
Ils sont en train de fermer la terrasse.
Là ça craint, ils vont charger qui en fait?
C'est fermé,
putain!
Bon,
là, ça pue, hein!
Bah, on aimerait pas!
Non, mais faut que vous nous laissiez passer, les mecs! On peut pas être entre vous, les mecs!
Les patrouilles du café, ils nous laissent pas rentrer, là! Là-bas, ils laissent les gens passer, tu crois qu'on peut aller leur demander? Ouais! Derrière l'Arc de Triomphe, une voiture s'arrête à ma hauteur et un mec me dit « Vous allez où, mademoiselle ?» Je dis que je sais pas. Lui, il me répond « Bah, si vous voulez, on peut vous accompagner. » Et je monte dans la voiture. Ils me disent qu'ils sont tunisiens. Il y en a un qui a les cheveux longs, un peu bouclés, tu vois, genre artiste. Et l'autre, plus court, un peu mieux habillé, plus classique, quoi. Dans la voiture, on entend de la chanson arabe. Et ils m'emmènent chez eux dans une belle petite maison, là où Picasso avait vécu avant. Attends, mais avant ça, avant qu'on aille chez eux, l'homme aux cheveux courts, celui qui présente un peu mieux là, il m'emmène dans un restaurant et on mange une pizza. À ce moment-là, je sentais bien qu'il était comme sous mon charme. On mange ensemble, il est tard dans la nuit, le restaurant est presque vide, les serveurs ils s'ennuient un peu. Et alors le type m'explique que lui... et l'autre Tunisien aux cheveux longs, ils sont artistes peintres. Et il me dit qu'il voudrait me montrer ses toiles. Il m'a emmenée chez lui, ou chez eux, et je me suis retrouvée au milieu d'une grande pièce, assise sur une chaise ou sur un fauteuil, et ils me montrent leurs dessins, leurs peintures. Au bout d'un moment, je leur ai demandé « Est-ce que vous voulez faire un portrait de moi ?» Alors ils se regardent, et puis ils s'assoient l'un à côté de l'autre, et ils commencent à me dessiner, moi, sur deux grandes feuilles en papier. Au bout d'un moment, c'est moi qui ai dit « Est-ce que vous voulez que je sois nue ?» J'avais envie qu'ils me dessinent nue, nue comme dans la cabine du bateau. Et au bout d'un moment, je m'étais levée et j'étais allée voir ce qu'ils étaient en train de faire. Je voulais garder mes sous-vêtements, quand même. Et alors je m'étais levée, j'étais allée voir ce qu'ils dessinaient. J'ai regardé chacune des deux esquisses. C'était incroyable. C'était vraiment moi. J'étais là, mais dessinée. Et deux fois. Comme si chacun me voyait de façon différente, deux possibilités de moi. Par contre, là où ça a commencé à déconner, c'est quand j'ai senti la main d'un des deux, sa main sur mon sein, putain. Ça m'avait mise dans une colère. Non mais j'étais furieuse, je me suis rhabillée tout de suite, j'ai remis ma culotte, mes vêtements, j'ai commencé à partir. Alors celui aux cheveux courts là qui présente un peu mieux, il voulait me retenir, il sentait bien que quelque chose n'allait pas. Et l'autre complètement vicelard, il crie « Laisse-la partir, laisse-la partir !» J'étais partie en claquant la porte. Et en sortant de la maison, je m'étais retournée et j'avais vu la plaque, il y avait une plaque sur le mur qui disait que ici, Picasso vivait ici avant. Picasso! Ça te dit où s'asseoir? On boit un verre un peu?
Oui, si tu veux.
Ah ouais, je veux. Après, c'est un peu flou. En sortant de chez le Tunisien, je marchais. Je me suis retrouvée sur les grands boulevards. Il devait être 5 ou 6 heures du matin, l'heure où les cafés ouvrent. Dans un de ces cafés, j'ai vu un téléphone à pièce. Et quand je l'ai vu, j'ai eu envie d'appeler mon amie Sophie. Sophie, c'est une de mes amies de Montpellier. Il fallait que ce soit elle. Il fallait que je lui parle à elle. Elle fait partie de ces gens qui savent écouter. Comme toi. Elle a cette double perception des choses. Je l'ai appelée, je lui ai dit « Sophie, je sais ce que je suis maintenant. Je me posais toutes ces questions, mais maintenant je le sais. Putain, mais c'est quoi cette putain de vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je suis à Paris, Sophie. Il faut que tu viennes.
Excusez-moi, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, merci.
À partir de là, il n'y a plus rien. Je marche. Il fait très chaud. Je me suis retrouvée sur le périphérique. Il est 10h du matin à peu près. Il fait très chaud. J'avais mon sac à main vert. Je portais un pantalon noir, une veste noire, un haut doré et mon sac vert.
Bonsoir. Qu'est-ce que tu veux, Léna?
Un coca
normal?
Ouais.
Et une bière, une pression.
16, c'est pas fort?
16, c'est bien.
16 et un coca. Débarrasse de ça.
Merci.
Une voiture s'était arrêtée. Je vois la portière s'ouvrir. Je rentre dans la voiture. Le conducteur me parle, il est très gentil, souriant. On se parle comme si on se connaissait depuis toujours. On roule un peu. J'ai aucune idée de l'endroit où on est. Je crois que j'ai quitté Paris. C'est comme si j'étais arrivée au bord du plan, tu vois, je suis sortie de la carte.
Le coca. La pression.
Merci. Le conducteur, il avait mis un peu de musique et j'avais commencé à me sentir bien. Je me sentais détendue, assise tranquillement sur le fauteuil avec la musique et ce type très gentil. C'est l'été, il fait chaud, le soleil. Je sentais la chaleur du soleil sur ma peau, sur ma joue, sur mon bras. J'avais envie de fermer les yeux. Mais il y a quelque chose qui attirait mon attention. C'est dans le rétroviseur extérieur. J'avais regardé longtemps le rétroviseur avant de comprendre ce que j'étais en train de voir. Et dans le miroir dehors, je vois mon visage, c'est sûr, c'est mon visage, je le reconnais, c'est moi. Une seconde après ou deux secondes après, tout à coup, il y avait plusieurs visages. Plusieurs visages qui se superposaient, comme si mon visage n'était plus mon visage. Mon visage se mettait à changer. Il y avait plein de visages qui venaient sur le mien, à sa place, comme si mon visage ne m'appartenait plus. Il était habité par des millions de visages qui passaient comme ça, les uns sur les autres, et ça tournait, ça changeait. Mais j'étais pas effrayée, au contraire, je me sentais bien. C'était comme si c'était l'image de quelque chose qu'il y avait à l'intérieur de moi, et qui appelait, qui criait, tu vois, à l'intérieur. Une minute après, je me retourne, et je vois que le conducteur de la voiture, il se passe la même chose sur lui. Il y a plein de visages sur son visage. Son nez, il se transformait, et même sa taille, son corps, tout son corps à lui, il changeait de forme. C'était plusieurs personnes, comme s'il y avait tous les fantômes en lui qui sortaient, les uns après les autres, un tas de gens. Et ça continuait comme ça. Ça avait continué assez longtemps et j'étais bien, vraiment bien.
Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous aurez une cigarette ?
Mais non, j'en ai plus, je suis désolé.
Moi, je fume pas, monsieur, désolé.
Chris ! Vite, quand ça fait un moment, on est assis là, on comprend pas.
Ouais.
Qu'est-ce que vous faites ?
Qu'est-ce
que
ça passe ?
Vous êtes une star ?
Ah bon ? Pourquoi ?
Mais parce qu'on voit toutes les machines autour de vous, on se dit que vous êtes une star.
En fait, je peux m'asseoir.
Ouais, allez-y.
Non, parce que nous, on est curieux, mais depuis tout à l'heure, on se demandait avec Jacques. Je me suis dit, mais là-bas, c'est quoi ? C'est un film, un tournage ? C'est un tournage ?
Non, c'est quoi ? C'est la radio, en fait.
Il y a des stars de la radio.
Mais je ne suis pas une star, c'est monsieur qui a dit que j'étais une star.
Non, mais je vois que telle que vous êtes belle, souvent quand on voit dans les films, c'est des femmes
merci,
comme
monsieur,
vous.
Vous êtes pas mal non plus. Hein.
Tiens, j'ai toujours un peu peur parce que c'est présenté. Parce que lui, c'est là, Papichon, moi, c'est la Chris.
Moi, c'est Layla.
Layla.
Et lui, c'est Jérémy.
Ah, Layla, Layla, c'est plutôt vers le Maroc. Moi, je suis passé par le Maroc pour arriver ici. Ouais,
ah ouais?
Ouais, ouais. Enfin, moi, j'ai plutôt adoré ça. Moi, je voulais pas.
Mais qui te dit que c'est Layla, c'est le Maroc? C'est forcément le Maroc.
Non.
Je crois qu'il n'y a que le Maroc. Il
n'y
a que les Layla qui habitent au Maroc.
Non, moi, je suis passé au Maroc. Au Maroc où j'ai rencontré une Layla. C'est pour ça que je fais.
Et même une Française qui peut s'appeler Layla.
Bah oui, moi, je viens de Bessèges.
Bessèges? C'est où ça?
Dans les
Cévennes.
Les Cévennes?
Pas loin de Montpellier.
Ah, les Cévennes? Il y a des Cévennes en France?
Oui!
Des fois, on t'a appelé Layla et tu fais de la radio. Non, mais nous, on est très curieux. Tu vois, lui, il a les droits de boxe, c'est un master. Ce qu'on aime, voilà. Peace. Toutes les fois qu'il rencontre un pote, qu'il soit éthiopien ou pas, parce que, comment on fait là, c'est le truc. Hein.
Rastaman, puis c'est Rastaman.
Rastaman. Rastaman. Jérémy ?
Ouais, ouais.
Non, nous, on aime bien.
Rastaman.
Non, là, ça fait un moment, on est assis, on boit à côté, on vous voit. Et du coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ?
Je suis pas une star, je raconte ma vie un peu à Jérémy, un truc qui m'est arrivé.
Mais pour toi, mais pourquoi pour vous ?
Ça va, voilà.
Oui, ouais, vous voulez boire quelque chose ?
Il n'y a pas trop. Ouais, moi, je
ne vais pas tarder à fermer. Ouais. Faire une dernière ?
Moi, je veux bien une bière.
Une bière aussi.
Okay, mais qu'est-ce que vous avez ? Ouais, une 16, moi, ça me va, merci. Merci. Donc, 3-16.
Aussi, pardon.
Ouais,
Ça va, merci.
3-16. Non, mais le problème, c'est la curiosité. Moi, j'ai toujours dit. Moi, j'avais un grand-père qui me racontait. Il disait, ouais, la France, c'est le pays de la liberté, des droits de l'homme et tout ça.
Non,
le pays
Chris, de Montesquieu. Au but. Moi, je t'ai dit, cette fille, elle est belle. Elle doit être une star.
Non, souvent, mais en fait, mais c'est juste qu'on est un peu en train de travailler.
Non, ça,
je sais pas. Non, mais je veux dire.
Vous travaillez dans un bar.
Je vous fais des enregistrements et tout, quoi. Enfin, bah, c'est du travail.
Non,
bah, si, c'est
un peu du travail. Oui,
mais bah, après, ça va
entre vous. Moi, ça m'arrive.
Non, après, ça va passer la radio et tout, quoi.
Ah,
ouais, non, mais.
Ça, ce qu'on dit là, enregistrer, ça va passer.
Bah, non, bah, je sais pas. J'en sais rien, on ne mettra pas, quoi. Moi.
Merci.
Et vous venez d'où ?
Nous, on vient du Congo, en fait.
Ah, tous les deux ?
Tous les deux, mais il y a deux Congo.
Ça vous dérange la musique ou...
Non,
nous, on vient du Congo.
Est-ce que j'aime la musique ? Vous pouvez couper parce que les voisins, on a des problèmes avec les voisins.
Ils commencent à être tard. C'est pas hyper fort.
Ouais, mais c'est pas.
Non, mais ils commencent à être tard. De toute façon, on va pas fermer dans très longtemps.
Vous étiez là, pourquoi vous parlez tout d'un coup de fermer ? Parce qu'on
est là. Non, parce qu'il est tard, monsieur. Parce qu'il est presque 2h du matin.
D'accord.
Je vais vous régler. C'est moi, je
paye. Non, mais vous pouvez rester.
passer, mais
je peux vous faire une carte.
Baisser un peu la musique, c'est tout.
Ok, bah c'est bon, je vais
passer mon paye par carte.
D'accord. Attendez, je
vais laisser passer là.
Merci pour la bière. Rappelez-moi votre prénom. Il a dit Jérémy. Merci pour la bière.
Bon, c'est.
Non, mais donc, en fait, il y a deux Congos dans l'histoire de la colonisation. C'est là où j'ai toujours pensé que le monde était petit. Bah voilà, par rapport. Il y a deux Congos. Lui, il vient du Congo belge. Moi, je viens du Congo français.
D'accord.
Voilà. En fait, quand on dit que tous nos ancêtres sont des Gaulois, en fait, donc ces ancêtres seraient belges.
Les deux capitales les plus proches.
Comment elles s'appellent?
Kinshasa et Brazzaville. Ah. Donc lui, il a dit ses ancêtres seraient belges et moi mes ancêtres seraient gaulois. Et voilà qu'on se retrouve en France.
Ouais, mais les
et on se retrouve avec Laïla de Bessèges. Voilà.
J'imagine de moi les romans de la radio, tu l'as dit.
Non mais moi mes parents, ils sont algériens, ils viennent de Constantine.
Ah, qu'est-ce que j'ai dit?
Tu as dit marocain.
Mais c'est ça, toi tu parlais du Maroc.
Oui, c'est pour ça que j'ai dit.
L'Algérie, c'est pas le Maroc.
C'est pas parce que ça s'appelle.
C'est pas le Maroc non plus.
Quand c'est soit... Oui, vous voulez juste baisser un peu le temps, là, parce qu'on commence à être tard et on a souvent des problèmes avec les voisins. Juste un peu.
Ouais, mais.
Juste baisser un peu.
Non plus, on va pas chuchoter.
On va pas.
Il est 2h du matin, on a des problèmes avec la police. Donc, juste, je vous demande juste de baisser un peu le temps. Je sais tout.
Non, mais c'est juste. Vous
pouvez le dire. Non, c'est bon, merci.
Jérémy, laisse tomber. On connaît ça. On connaît ça.
Qu'est-ce que tu connais?
Ben, on connaît ça, on a l'habitude. C'est la tête du client, quoi.
Ah ouais?
Non, mais ils choisissent. C'est ça le problème de Paris, c'est qu'en même temps, c'est un grand bordel. Ouais. Tu vois, c'est un grand bordel où on fout tout et n'importe quoi, mais en même temps, ils veulent organiser le bordel. Non, un bordel ne s'organise pas. C'est pas possible. Il faut accepter que ça soit un bordel. Et du coup, on est tous bordés,
non? Non, mais c'est moi, j'étais en train de vous dire que vous êtes très belle. Je disais à mon frère que vous êtes très jolie. Est-ce que vous êtes mariée?
Oui, avec moi.
Ah ouais?
Non, il n'y a pas de problème.
Pour faire de la radio, tu n'as pas besoin d'être marié.
Non, mais forcément, j'ai dit.
Non, mais je déconne. Non, mais non, on n'est pas marié.
On bosse là, celle-ci. Il m'interviewe là.
Bon, la vôtre,
merci. Ah, super.
Merci,
Jérémy. Non, mais c'est ce qui est bien en même temps à Paris, même si ça reste un bordel.
Moi, je suis contente d'être à Paris. Moi, j'ai voulu venir à Paris. J'adore Paris.
Moi aussi.
Le bon Dieu, il m'a mise dans le mauvais sac quand je suis née et puis je me suis arrangée pour venir dans le bon sac.
Mais mourir sans voir Paris,
c'est un péché. C'est obligatoirement venir ici. Parce que...
D'où l'on vient, mourir sans voir Paris est un péché.
C'est
vrai?
La musique, j'aime bien.
T'aimes bien la musique?
Bah,
le gars,
t'en gagne. Ah,
ouais. C'est bon, moi, je veux bien. Mais pour le moment, c'est un peu. Tiens, je te. Tu vois? En même temps, il y a un truc où je m'inscris en faux carrément. Pourquoi tu dis que t'es né dans le mauvais sac? Parce qu'on choisit. Attends, comment on appelle la chanson? On choisit pas ses parents, on choisit pas ses machins.
J'adore cette chanson.
On choisit pas ses amis. Je sais pas, il y a un truc comme ça où on choisit pas sa famille et tout d'un coup. Pourquoi tu es né dans le mauvais sac?
Né quelque part là.
Né quelque part. Voilà. Né quelque part. Comment on appelle le pas Brassens, ça, l'autre?
Soudain, on va fermer.
Bah, on n'a pas fini nos bières.
Ouais, vous allez
faut finir en deux secondes là parce qu'on
non,
peut perdre.
Non,
mais il est vraiment
deux secondes.
Non, il faut tout le monde s'en va là. On va
d'accord, mais pour encaisser, vous attendez pas deux secondes. C'est quoi le problème? C'est nous, dites-nous, on va partir.
Non, non. Il est 2h du matin. C'est l'heure de fermer.
Il est 2h du matin pour
vous. On va pas faire des histoires. On va pas faire des histoires. On se lève tranquillement.
Non, non.
Ça va.
Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Parlez-moi. Je vous entends.
On parle normalement. On parle normalement.
C'est
2h du matin,
bien, tu me parles gentiment. Attends, depuis qu'on arrive ici, t'arrêtes pas de faire des tours. Vous nous
tutoyez pas déjà. Donc un peu de respect, monsieur.
Vous nous yeux.
Monsieur, s'il vous plaît, 2h du matin, j'ai passé la journée à travailler. Je veux rentrer chez moi.
Et
pas
le temps,
je connais monsieur.
Vous avez pris l'argent. On va les faire.
Emportez les bières si vous voulez.
Non,
vous partez. Sortez avec la bière.
Emportez la bière. On est désolé, c'est pas ce qu'on voulait faire.
Non, s'il vous plaît.
Non, attends, ça va, c'est bon.
Apportez les bières, c'est bon. Vous l'avez payé.
On la connaît la stratégie.
Bonsoir.
Bonsoir. Rien de neuf sur la planète. Paris, quoi.
Bonsoir,
le grand bordel.
Les voisins, s'il vous plaît.
سأقطع هذا الطريق الطويل 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 إلى آخره وإلى آخر القلب أقطع هذا الطريق الطويل. فما عدت أخسر غير الغبار وما مات مني، وصف النخيل يدل على ما يغيب. سأعبر صف النخيل. Je parcourrai cette longue route, cette si longue route jusqu'au bout du cœur. Je parcourrai cette route longue, si longue. أيحتاج جرح إلى شاعره ليرسم رمانة للغياب. سأبني لكم فوق سقف الصهيل 30 نافذة للكناية، فلتخرجوا من رحيل لكي تدخلوا في رحيل. تضيق بنا الأرض أو لا تضيق، سنقطع هذا الطريق الطويل إلى آخر القوس. فلتتوتر خطانا سهاما. أكنا هنا منذ وقت قليل، وعما قليل سنبلغ سهم النهاية. دارت بنا الريح، دارت. فماذا تقول؟ أقول سأقطع هذا الطريق الطويل إلى آخره وإلى آخره، وأرمي كثيرا من الورد في النهر قبل الوصول إلى وردة في الجنة. Alors je me suis remise à marcher. Il faisait chaud de plus en plus et il s'était mis à pleuvoir sans prévenir. Je marchais sous la pluie et je me suis trouvée devant la vitrine d'une petite bijouterie. Je voulais m'acheter les boucles d'oreilles que je voyais dans la vitrine. Des boucles qui se pincent sur l'oreille comme ont les enfants. Elles étaient tellement jolies. C'était deux petits soleils plaqués or. Mais au dernier moment, le paquet dans la main, j'ai vu que j'avais pas d'argent. J'avais même pas mon portefeuille, il devait être loin derrière moi. Alors j'étais repartie. Ces deux petits soleils, c'était mon dernier désir. Le dernier désir d'avoir quelque chose à moi. Mais finalement, je me sentais plus légère sans argent, sans rien. Fallait mieux que je marche. La marche, toujours en avant. La pluie tombait, légère encore. C'était un peu irréel. Je me sentais comme apaisée. C'était agréable de marcher sous la pluie fine et la chaleur. Je me souviens d'avoir pensé, je suis de passage. C'est ce que j'avais dit à un homme à qui j'avais parlé quand il avait ouvert la portière de sa voiture. Il avait demandé d'où je venais, ce que je faisais là, et j'avais dit ça, j'avais dit « Je suis de passage ». Je marchais toujours. Je sentais quelque chose en moi qui me quittait, ou quelque chose en moi que je laissais aller, petit à petit. Alors lentement, comme une certitude, j'avais retiré mes chaussures. C'était des chaussures noires, des nu-pieds un peu hautes et croisées, un peu vernies. Je les retire et je marche pieds nus sur la route. Je me retrouve à nouveau sur le bord d'une autoroute. Le périphérique, sans doute. Je marche au bord de l'autoroute. Il y a des voitures. Il y a beaucoup de voitures. Je ne sais plus vraiment où je suis, je me sens ailleurs. La sensation du corps est différente. Je me sens bien, légère. Il y a une joie qui monte en moi. C'est comme une musique. Ça monte en moi. C'est comme si je me sentais libre tout à coup. J'étais prise de liberté. C'est quelque chose qui me prend, comme une danse qui m'emporte, ça tourne. Je suis face à l'océan. Plus rien n'est important que ça, la mer. Devant moi, en moi, comme une vague puissante. Il n'y a plus rien. Je suis dans l'immensité, dans l'infini. Je suis au milieu de l'infini. La pluie sur mon visage, c'est l'écume qui bat dans mes cheveux, les embruns qui me fouettent les joues. Je sens le parfum des océans sur les plages. Je marche. Je voudrais courir. Je voudrais que l'océan m'emporte. Cette fois, c'est certain, je le sens. Cette fois, je suis ici à ma place. C'est ici que je suis à ma place. C'est ici et il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'ailleurs. Ailleurs, ça ne veut plus rien dire. Et puis j'ai retiré ma veste noire. Elle est tombée par terre, sur la terre mouillée. J'ai retiré mon haut doré. J'ai laissé tomber mon pantalon dans la boue. Et puis mon soutien-gorge. ma culotte, je me suis retrouvée toute nue. Les voitures avaient commencé à klaxonner, mais moi je m'en foutais. J'ai défait une gourmette que je portais au poignet et je l'ai accrochée à une branche, comme pour marquer mon passage. C'est mon ami Raphaël qui me l'avait donnée. Il y avait son prénom écrit dessus. Je marchais. Je sentais les gouttes de pluie sur ma peau nue, dans mes cheveux. Je suis trempée, nue, avec les voitures, le soleil encore. Et la mer ? Ça va, ça vient. La vague. Les odeurs d'embrun et d'écume fraîche. Au vent gris qui se lève à présent. Je voudrais que ça m'emporte. Et je m'assois au bord de l'autoroute, à genoux. Il n'y a plus rien. Je suis là. Je suis au fond du monde. Je me suis sauvée. Alors, je m'étais approchée de la terre. Et j'avais approché mon visage de la terre. J'ai respiré très fort son odeur, comme du sang. L'odeur de fer de la terre mouillée, comme du sang. Et j'ai plongé mes mains dans la boue, lentement. Et lentement, je l'ai passée sur moi. Je me suis recouverte de cette terre, toute nue, toute seule, vivante. Il n'y a plus rien que mon corps plongé dans la terre, que ma peau brunie de boue et de soleil, ici et maintenant, pleine de sang et rien d'autre. Je me relève au bout d'un moment, à nouveau je marche, je danse emportée par cette vague immense de chaleur et des blessures en moi. Mais à présent je sens les épines et les ronces et les cailloux sous mes pieds nus. Ça fait mal. Je sens le contact de la peau avec l'arête affûtée des pierres. La peau qui s'ouvre et se déchire. Mais j'avance. Je vais vers le haut du talus. Vers le milieu. Vers la route. Mes pieds commencent à saigner. Je touche enfin l'asphalte. Je marche sur l'autoroute. Il faut aller de l'autre côté. C'est ça. C'est là qu'il faut aller. Au bout de la vague. En elle. Sur la crête. Dans la mer. Dans la vague. Que la vague m'emporte.
Tu peux tirer une... Ouais, merci. Ouais, ça pique. Après, c'est l'hôpital, quoi. Moi, dès que je me suis réveillée dans cette chambre-là, je pensais qu'à une chose, une seule chose, je pensais qu'à Paris, je voulais retourner à Paris. Le jour même ou le lendemain, ma mère, elle était venue me voir, elle avait apporté des vêtements, des choses à manger, elle avait pleuré un peu, elle comprenait pas ce que je faisais là. Elle m'avait dit, regarde, toutes tes copines t'ont mené. C'était insupportable. Mais bon, c'est ma mère. C'était une valise entière remplie de vêtements, de petites choses à moi, des photos, des cadeaux. On avait dû essayer de lui expliquer ce que je faisais là. À mon avis, elle avait rien compris. De toute façon, il n'y avait rien à comprendre. Je sais pas ce qu'ils lui ont dit, mais ça devait être incompréhensible. Et quand elle venait pas me voir, elle m'appelait au téléphone. Il n'y a que ma mère qui est venue pendant tout ce temps. Mon père, mes frères, mes sœurs n'ont rien. Pas un coup de fil, pas une visite. Ma mère a toujours été là, celle qui a toujours été là, du début à la fin. Je me rappelle un matin, une infirmière s'était retournée sur moi. Elle avait été surprise, elle était en train de s'occuper de quelqu'un d'autre dans la chambre et j'ai dû me réveiller en sursaut. Alors elle s'était retournée, elle m'avait regardée, elle était surprise, elle avait dit « Ah, c'est vous !» Je lui avais répondu directement, je lui avais dit « Oui, c'est moi. » Je suis là parce que vous avez besoin de moi. En fait, c'est vous qui avez besoin de moi. Mais dans ce genre d'endroit, personne ne t'écoute. Ce que tu dis n'a aucune importance. C'est comme si tu parlais pas. Je me souviens d'une femme psychiatre à qui j'avais voulu raconter ce qui m'était arrivé. Je pensais qu'elle m'aiderait à comprendre. Et au bout de trois phrases, elle m'avait arrêté net. Elle avait dit « Ne vous fatiguez pas, maintenant c'est fini vos bêtises. » tous les jours, il me donnait des médicaments. Au bout de quelques jours, j'étais complètement shootée. Les médicaments, il nous les donnait avant les repas, juste avant d'aller manger, midi et soir, au minimum, parfois le matin en plus. Pour moi, c'était tertian, solion et aldol. Aldol, il n'y a rien de pire. J'avais plus aucune sensation dans la bouche. Mes mâchoires étaient complètement engourdies, j'avais du mal à manger, un mal de chien. Et puis petit à petit, cette sensation s'étend dans tout le corps. T'as plus aucune emprise sur les membres, parler devient impossible, marcher devient impossible. Attraper un objet, ça peut prendre des heures rien que pour attraper un objet. On n'a plus de sensation, au bout d'un moment, tu te baves dessus et tout se fait au ralenti. C'est horrible. C'est pratiquement inhumain ce qu'on subit dans ces hôpitaux. J'étais consciente de tout, évidemment, mais c'est le corps. Le corps ne répond plus à rien. Ton corps, il t'appartient plus. Il appartient aux médicaments. Et toi, à l'intérieur, tu ressens tout. La pensée fonctionne, le cerveau, il tourne à fond. Moi, à l'intérieur, j'avais envie de hurler. À l'intérieur, je hurlais. À l'intérieur, je pensais qu'à une chose. Je pensais qu'à Paris, je voulais retourner là-bas. Je voyais des images la nuit dans mes rêves. Je voyais les rues de Paris. Je me rappelais de tout ce que j'avais fait. Je savais qu'il fallait que j'y retourne. Et puis, tu croises toutes sortes de gens à l'hôpital. La plupart, ils avaient l'air encore plus cachetonnés que moi. C'était terrible. Dans la chambre, avec moi, il y avait deux filles, des sœurs jumelles. De temps en temps, elles se prenaient par les bras et elles se mettaient à danser dans la chambre. Un peu plus loin, dans le couloir, il y avait une petite vieille cosmique. Une kabyle. Elle se maquillait tous les matins, mais elle était maquillée à mort. Parfois, elle mettait du noir, du crayon ou du colle, mais surtout le visage. Elle finissait toute noire. Il y en avait un autre, un petit vieux, pas méchant. Je l'aimais beaucoup. Il avait presque plus de dents. Au repas, il parlait beaucoup et regardait toujours ce qu'il y avait dans son assiette. Il avait l'air inquiet de ce qu'on lui donnait à manger. Et toujours il disait, Chirac, il m'a volé mes sous. T'en veux ?
Ouais.
À côté de lui, à table, il y avait toujours un indien des Indes. On aurait dit un moine ou un religieux, je sais pas. Il parlait à personne. Il s'asseyait toujours en tailleur sur sa chaise, comme ça. Tout le temps comme ça, complètement plié sur lui-même. Et
T'as vu là-dedans ?
Ouais, c'est beau.
Regarde la lumière. C'est bon, hein?
Ouais. Ouais,
c'est
hyper beau.
C'est bien.
Ça faisait longtemps que j'avais pas vu le jour se lever.
Ouais, non, c'est pareil.
C'est dommage, on voit pas la scène. J'en étais où? Ouais. Tu sais, dans les douches, on n'avait aucune intimité. Et une fois ou deux, il y avait un infirmier qui était resté dans la pièce pour me regarder. Il n'y avait pas de rideau, tu vois. Tous ces infirmiers se foutaient de ma gueule. Il y en avait un, il m'appelait Leila El Fayette et ça le faisait rire. Une fois, une infirmière, elle a voulu être gentille avec moi, tu vois, en me donnant mes médicaments. Elle avait commencé à me parler. Et je lui avais raconté Paris, le Ritz, les Tunisiens. Je pensais qu'à ça jour et nuit. Elle m'avait dit, Leila, faudrait que t'arrêtes de penser à ça. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas la réalité. Tu te rends compte que ce n'est pas la réalité? Moi, j'avais envie de courir, j'avais envie de partir. Partir loin, moi à Paris. Mais pour avoir la paix, je lui avais répondu que oui, tu as raison, ce n'est pas bien, j'essaie de plus y penser, c'est promis, merci. À ce moment-là, j'ai compris ce que c'est vraiment l'hôpital. Il nous soigne par la souffrance. Soigne la souffrance par la souffrance, faut le dire. Et puis, au bout de quelque chose comme un mois, ils avaient baissé mes médicaments, ils avaient dit que je m'en comportais bien, que j'avais l'air d'aller mieux. C'était comme si un voile se levait devant moi. J'ai vu les gens autour de moi, c'était tout à fait autre chose. Il y avait une fille, la sœur de Brahim Bouaram, ce jeune Marocain que des types d'extrême droite avaient balancé par-dessus un pont dans la Seine. Il était mort, et depuis, sa sœur, elle m'avait dit qu'elle venait régulièrement ici, à l'hôpital d'Alès, qu'elle avait peur tout le temps. Je me souviens, elle fumait énormément, elle tirait sur sa cigarette comme folle. On s'entendait bien. On buvait des coca ensemble dans le parc de l'hôpital. Elle me disait toujours, Leila, faut que tu te battes. Je l'aime beaucoup. On essayait de se soutenir. Tu veux du pain?
Non.
Ah, voilà.
C'est bon.
C'est bon, hein? Je vais te faire chauffer ça, d'accord?
Oui.
Ok.
Tu enlèves la croûte, maman. Regarde, maman. Pourquoi, maman?
Faut colorier les images qui sont dans l'histoire.
Quoi? C'est du marron.
Ouais, du marron. Voilà.
Tu veux les saucisses très chaudes ou juste un peu chaudes?
Tiède.
D'accord, chérie.
La mer, elle est comme bleue.
Du bleu, il y a le bleu. Ah, la mer est bleue, oui. Ah, voilà.
La mer, elle est bleue. Voilà. J'ai pas lavé les mains.
On a oublié.
C'est pas grave.
Ouais, c'est pas grave.
Mais quand même, on va avoir des microbes.
Non, mon chéri. T'as pas de microbes, toi.
Laïla, à présent, je suis au fond du monde. D'après le spectacle écrit et mis en scène par Jérémy Scheidler. Réalisation, Alexandre Planck et Jérémy Scheidler. Assistante à la réalisation, Clémence Gross. Avec Boutaïna Elfekak et Chris Nyanguna, Papiccio Matudidi, Carles Romero Vidal, Joseph Geselson et Jérémy Scheidler. Musique et création sonore, Jean-Christophe Camps. Violoncelle, Deborah Walker. Saxophone, Bertrand Denzler. Guitare, Anna Ban. Conseillère littéraire, Pauline Timonier. Prise de son, montage et mixage, Pierrick Charles et Amandine Grevoz. Remerciements à Laïla Marmi et Bénédicte Serruti. Laïla, à présent je suis au fond du monde, écrit par Jérémy Scheidler avec Arnaud Maïsetti et publié aux éditions Esqueux.